pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le Parisien d'hier commente les chiffres de la sécurité routière publiés le jour même par la délégation interministérielle à la sécurité routière. 3139 morts sur les routes françaises entre janvier et novembre 2016. Le nombre de victimes a, semble-t-il, cessé de baisser depuis plusieurs années. Si l'on en croit le quotidien, plusieurs facteurs expliquent cette stagnation inquiétante. La vitesse moyenne a encore augmenté. Les conducteurs se sont relâchés. Les radars, apparemment, n'effraient plus personne. Les automobilistes se contenteraient le plus souvent de lever le pied avant le radar et de réaccélérer après. En 2015, 23% des tués sur la route, continue le Parisien, étaient morts par la faute d'un conducteur testé positif aux divers stupéfiants. En Suède, par exemple, dans n'importe quel événement social ou familial auquel j'ai pu assister, avant de proposer à un convive de l'alcool ou du cannabis, un verre d'aquavit ou un pétard, on lui demande si c'est lui ou son conjoint qui conduit. Et si la personne conduit, elle ne touchera même pas à un verre ni à une bouffée d'herbe. En tout cas, dans ma famille, c'est comme ça. Pour continuer avec les causes supposées ou réelles de ces 3139 morts de trop, il semblerait que la plupart des mesures prises récemment soient aussi très inefficaces, surtout parce qu'elles ne sont pas hiérarchisées ou peu appliquées. La vidéo-verbalisation, le nouveau grand truc, a permis à la police de coller 154 733 PV à des automobilistes l'année dernière, mais il se trouve qu'elle ne permet pas de voir si un conducteur ne porte pas sa ceinture, ni s'il téléphone en conduisant, et pas non plus s'il est trop proche de la voiture de devant. Bref, un ensemble grave, précis et concordant de circonstances qui, ajoutées à l'imbécilité, la vanité et la violence automobile gratuite et quotidienne, font que la France a peu d'espoir de s'améliorer sur ce point d'ici à je ne sais quand. Aujourd'hui donc dans les pieds sur terre, deux histoires pour calmer les chauffards et les semi-chauffards, deux histoires pour bien entendre l'effet que cela fait à la première personne que d'avoir tué quelqu'un en voiture, une émission spécialement dédiée aux conducteurs qui arrivent derrière vous à 180 km/h sur la troisième file de l'autoroute, se collent violemment derrière avec des appels de phare répétés, moteur vrombissant, et accélère jusqu'à ce que vous vous dégagiez vers la droite, le cœur battant, stressé, encore sous le choc de cette conduite atrocement banale. Accident de la route, ceux qui restent, c'est jusqu'à 14h par Valérie Borst sur France Culture, évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Disons que je viens à Lyon, c'est la première fois que je vois Lyon comme ça. J'ai déjà vu un peu de brouillard, mais jamais aussi condensé que ça. Des fois aussi pour détendre, changer un peu d'esprit, parce que la Suisse, c'est très difficile. Mon accident, il me rattrape tout le temps. On ne peut jamais tourner là-bas. J'avais pas la ceinture de sécurité. Si j'avais su, je l'aurais mise. J'ai une cicatrice qui traverse tout le crâne. Hein. Des fois, le soir, que je suis devant la télévision, je gratte partout où il était cassé. Il est recollé hein, aujourd'hui, mais il y a quand même la fissure. Je vois où je vais, je ne sais pas où je vais. Là. Mais je me suis défiguré par ma faute. Hein. La place dehors ou pas? Oui, là, on va se mettre là direct. Voilà. Je n'ai aucun souvenir de l'accident. Tout ce que je vous raconte là, c'est l'enquête qui l'a révélé et bien sûr. Les témoins qui sont venus me le raconter bien des années après. Le 6 juin 2003, c'est-à-dire il y a 13 ans en arrière, j'étais dans un bar, au fait, avec des amis. Et dans ces amis, il y avait mon meilleur ami, mon ami de poussette, comme j'appelle ça. Donc depuis l'enfance, on a fait les 400 coups. Il y avait ma sœur, on était une dizaine de personnes, je crois. Ben, comme chaque vendredi soir, c'était un rituel, on se retrouvait pour boire l'apéritif. Et puis, comme ça arrive qu'aux autres, et puis que la voiture connaît la route, ben, j'ai pris la route. Et puis, arrivé dans un virage, au fait, un virage que je prenais minimum 4 fois par jour, mon véhicule est parti en travers, et en face, arrivait un véhicule qui arrivait normalement. Je l'ai heurté. Et je me suis réveillé 5 jours plus tard à l'hôpital où je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que j'avais fait. Et puis là, on m'a annoncé que j'ai eu un accident de la route. Tout de suite, ben, comme je viens du sport automobile, je dis zut ma voiture. Et puis là, on me dit, écoutez, vous étiez seul dans la voiture? Je dis, ben oui, bien sûr. Et puis là, on me dit, écoutez, le psychiatre doit arriver. Et puis, j'ai voulu aller fumer une cigarette. Et puis là, quand ils m'ont avancé une chaise roulante, un fauteuil, je découvre que ben, je ne sais plus marcher. Je découvre aussi que je ne sais plus parler correctement. Je zozotais, j'étais un petit peu un dadais, comme on dit. Hein. J'avais des tuyaux partout, j'étais courbaturé de partout, j'avais une sonde urinaire. Enfin voilà, je me suis dit, oh ben ça doit être quand même grave. Quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment cette question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me souviens de rien. J'essaie de me remémorer ce qu'il y avait avant l'accident. Et au fait, il n'y avait rien du tout, c'était blanc. Alors j'étais un pilote amateur, un peu foufou du volant quand même, mais très rapide, puisque j'avais quand même un surnom de Jim Clark. Je roulais sur la route comme je roulais sur circuit. Je dois quand même l'avouer, comportement immature, comportement d'égoïste. Au fait, je suis tout seul, de toute façon, il n'y a que moi. Et puis, Joe qui est invincible, qui s'en fout des lois. Et puis que voilà, le rebelle, au fait, le vrai rebelle. Et puis, toujours à fond. Après, on m'a ramené de mon fumoir et on m'a remis au lit, et là, le psychiatre est arrivé. Et puis là, quand il me dit que je ne suis pas tout seul dans le véhicule, je dis, oh, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il m'a annoncé qu'au fait, c'était mon ancienne compagne qui était assise à mes côtés et qui était d'un état végétatif d'un autre hôpital. Et puis que certainement, elle allait décéder. Là, c'est le coup de massue, au fait. Le psychiatre m'a pris en charge directement. Hein. Et là, je me souviens aussi qu'il m'avait donné mes affaires que j'avais sur moi. Et j'avais une lettre d'amour, au fait, de ma poche que je n'avais pas lue. Elle me disait qu'elle m'aimait. Je pense que c'est ce qui est un peu plus difficile aujourd'hui de mon affect pour me reconstruire, parce que quand on sait qu'on a levé la vie d'une personne qui nous aime, et puis que on n'a qu'une lettre, au fait, qui nous le rappelle. C'est... Là, j'avais tellement de colère en moi, et puis je ne savais pas comment surmonter. Là, j'ai voulu me mettre aussi terme à mes jours. Après, j'ai voulu qu'on me mette en hôpital psychiatrique. Parce que ça allait vraiment trop loin. C'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre. Ce que j'aimerais revenir sur mon réveil de coma aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans, l'accident c'était il y a 13 ans, et de 20 à 30 ans, je ne me rappelle de plus rien du tout aujourd'hui. Je me rappelle toute mon enfance alors, quand toute mon enfance s'est réveillée, mais de 20 à 30 ans, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelais plus que j'avais des enfants par exemple. La vie s'est arrêtée à quelque part, et je ne savais plus parler. Je savais plus marcher, je savais même plus manger, parce qu'au fait, je mettais la cuillère dans l'oreille. On m'a donné à manger pendant 3 jours, réapprendre ce mouvement, au fait. le taux de l'alcoolémie qu'ils ont découvert dans le sang, j'étais ivre, j'étais en ébriété. Ouais. Les gens que je côtoyais savaient que j'avais un problème d'alcool. De mon passé, j'ai eu déjà 3 retraits de permis pour alcoolémie au volant. On peut dire que j'étais malade alcoolique. Ouais. C'est vrai que l'alcool avait une grande place dans ma vie. Le matin, midi, soir, tous les jours. Hein. Je viens d'une région viticole, donc c'est sûr que c'était normal qu'après l'apéritif, on rentre en véhicule. J'ai grandi dans ce milieu-là, dans ce contexte. Moi, c'est une image que je voyais tous les jours à la maison, quand j'étais enfant. Maman faisait facilement la fête. Un verre d'alcool très jeune, hein, donc à 11-12 ans déjà, régulièrement, c'était normal. J'ai trop tiré sur la corde. Et aujourd'hui, avec du recul, je dis, ben, il fallait que j'arrive là pour prendre conscience de mon comportement. Et j'ai été condamné le 18 janvier. Alors j'ai fait une année ferme. Après, j'ai fait 6 ou 7 mois de bracelet électronique, de surveillance. Et après, on m'a accordé la conditionnelle qui s'est terminée en 2010. Et puis, je devais suivre des mesures thérapeutiques, au fait. Et aujourd'hui, en 2016, je me dis heureusement que j'ai la cigarette pour... c'est une fausse excuse, hein, mais c'est pour me détendre. J'aimerais pas retomber dans ma dépendance. Physiquement, ça va. C'est moralement que c'est qui est plus difficile aujourd'hui. Ce qui est dur à gérer, c'est la culpabilité qui est là chaque seconde, qui ça vit avec moi. Je pense que mon accident a mis une grosse embrouille dans les relations familiales, dans toute la famille. Ma maman aussi m'a pas causé pendant des années et des années. Alors je me souviens qu'une fois j'avais pu avoir un congé à l'hôpital, donc j'avais encore une attelle à la jambe, hein, j'étais tout balafré par la figure. J'avais voulu aller vers elle. Elle est sortie sur la terrasse, puis elle m'a dit... Non, je veux pas te voir, il faut que tu partes. Ça fait mal au cœur, quoi. Le lien a changé. Et les amis, enfin, aujourd'hui, ils sont très très distants avec moi, donc je les vois très rarement. Et très souvent, ils changent de trottoir, donc je peux pas appeler ça vraiment des amis ou de la famille. Chaque semaine, j'ai droit à un scandale dans un lieu public ou dans la rue. J'ai droit à des diffamations. Et c'est une personne qui me passe devant à 2 mètres, puis qui serait 10 mètres plus loin et qui me prend photo. Au lieu de me passer à côté et puis me fusiller du regard et rien me dire. Ça s'appelle du harcèlement, ça. J'ai parfois des membres de la famille qui me menacent, qui me font du chantage ou comme ça. Je sais bien que c'est impardonnable ce que je leur ai fait. Je comprends, mais il faut qu'ils vivent maintenant. Donc quand on me dit que... Je ne dois pas y penser à cet accident, mais oui, mais j'aimerais bien, mais ce que je vis aujourd'hui, c'est juste inhumain. Voilà, donc ça me le rappelle tout le temps, en permanence. J'aimerais juste que ma vie soit un peu plus sereine et un peu plus paisible. J'aimerais juste que, comme j'entends souvent que la roue tourne, je pense que la roue, elle a tourné pour moi le 6 juin 2003, et j'aimerais juste qu'on m'apporte un petit peu, qu'on me tende la main une fois pour pouvoir avancer. Ouais. Parce que aujourd'hui, j'ai pas de désespoir, je reste positif, j'ai de la volonté, j'ai de la force, apparemment mentale, pour aller de l'avant, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir un peu d'amour autour de moi quand même. J'ai eu plusieurs relations, puis bien sûr, la pression de l'entourage, l'influence de l'entourage a fait que fallait qu'elle me quitte, quoi. parce que ça se fait pas, sortir avec quelqu'un qui a enlevé la vie. Ton mec, il l'a tué. Voilà. Voilà comment on me juge en Suisse. Alors, par rapport à elle, avec du recul, je me dis que depuis là-haut, elle est fière de toutes les démarches que j'ai entrepris, d'avoir créé une association de prévention routière. Je pense que, avec un message de sauver une vie, si seulement je pouvais sauver une vie, je pense que c'est le plus beau message que je peux lui apporter, même si elle n'est plus là aujourd'hui. Les images, les élans d'elle, moi j'y pense tous les jours, moi. Que je me rase, je vois ma bouche déchirée, ben, je pense à ce moment-là. Quand je regarde ma cicatrice, je pense à ce moment-là. Et puis ma vie, à moi aujourd'hui, ben, je suis au chômage. Là, je vais demander le social maintenant. Moi, je pense que je vais finir à la rue. Ouais. Je vois pas beaucoup d'alternatives en Suisse. Je me disais dans le passé, il aurait mieux fait de me laisser au bord de la route, hein, que j'étais mort.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Bertrand, j'ai 51, bientôt 52 ans, et donc il y a maintenant 32 ans, donc j'ai eu un accident de voiture. C'est un vendredi soir, c'est le dernier vendredi du mois d'octobre. J'ai 20 ans, c'est en 1985, dans une petite ville de province où j'habite, où je fais mes études. Je me souviens, je suis seul dans ma voiture, qui est la voiture de mes parents. Il pleut pas mal. Devant moi, il y a une voiture qui roule pas vite. Et donc, je veux doubler cette voiture. Et il y a une ligne droite, ce que je crois être une ligne droite. Donc, je vois personne en face. Donc, je décide de doubler la personne qui est devant moi. Et au moment où j'arrive à sa hauteur, je suis en train de la doubler. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait une espèce de courbe assez légère. Et dans cette courbe, en fait, il y a une voiture qui arrive en face. Et je vois très clairement que je n'aurai pas le temps de doubler la voiture. Je vais freiner, je vais ralentir pour me ranger à nouveau derrière la voiture que j'ai essayé de doubler. Et malheureusement, au moment où je freine, vraiment au moment où je pose mon pied sur la pédale de frein, ma voiture part en aquaplaning. Je perds totalement le contrôle de ma voiture qui part en dérapage. Et là, tout d'un coup, tout va extrêmement vite. C'est-à-dire que la voiture que je voyais encore assez loin devant moi, bah, se rapproche. Et je vois très bien l'image où je sais que je vais lui rentrer dedans. Donc, face contre face, je me jette sous le volant en me protégeant la tête avec mes bras. Et c'est le choc. Je le vois tout de suite, je le sens tout de suite que j'ai rien, que j'ai mal nulle part, que j'ai rien de cassé, que ça fait du bruit, c'est de la ferraille, on est arrêté au milieu de la route sous la pluie, ça fume. Et donc à ce moment-là, je veux sortir de la voiture, la porte est un peu bloquée, donc je donne des coups de pied sur la porte de la voiture pour l'ouvrir. On a cogné de côté, c'est-à-dire conducteur contre conducteur, et les voitures sont extrêmement abîmées, il y a beaucoup de ferraille et tout. Les gens sont arrêtés, il y a du monde, il y a des gens qui sortent des voitures. Dans la voiture en face, je vois une jeune fille qui sort que je connais très bien. Je ne réfléchis pas en disant, tiens, est-ce qu'elle était passagère, est-ce qu'elle était conductrice, est-ce qu'elle était toute seule dans la voiture ou pas toute seule. Je ne réfléchis pas à tout ça en fait. Et elle me dit, mais Bertrand, qu'est-ce que tu as fait? Et moi je dis, je suis désolé tout de suite parce que je sais que c'est de ma faute. Je sais que c'est moi qui m'étais déporté, qui était sur la voie de gauche. Et à ce moment-là, j'ai un réflexe. Très vite, ce que je cherche, c'est un téléphone. Et en fait, je veux prévenir mes parents. Et je me souviens qu'à côté de là où on a l'accident, il y a une ferme. Et je demande, est-ce que je peux utiliser le téléphone? Et j'appelle mon père. Il dit, ok, j'arrive tout de suite, pas de problème. Je reviens sur la route. Il y a déjà des pompiers, le SAMU. Tout de suite, les policiers me prennent en main. Ils me font rentrer dans leur camionnette. Et puis, il y a un autre policier qui arrive à ce moment-là et qui me tend un alcotest en me disant, tiens, souffle là-dedans et j'espère qu'il sera positif. Et voilà, et tout de suite, je dis, bah non, j'ai pas bu d'alcool. Et donc je souffle dans l'alcotest qui est négatif. Mon père arrive et mon père a une tête qui me laisse entendre qu'il se passe quelque chose de grave. Et voilà, il me prend un peu par le bras et on part vers sa voiture. Et c'est là où il me dit, le conducteur est mort. Et là, j'ai un sentiment de quelque chose qui ne peut pas arriver. À quelques mètres de moi, il y a un gars qui est mort et à cause de moi. Je m'affaisse, en fait. Vraiment, physiquement, je dis rien. Je suis dans une espèce de cauchemar. Et on rentre. Et on rentre et on dit rien. Donc le lendemain de l'accident, ma mère m'a emmené chez les parents de l'homme que j'avais tué. Et elle m'a déposé devant la maison. Elle me dit, tu rentres, tu vas présenter tes condoléances et tes excuses. Et j'ai du mal à quantifier la douleur et la souffrance que ça a dû être pour les parents de me voir. J'ose espérer que des mois, des années plus tard, c'est quelque chose qu'ils ont reconnu, apprécié, je sais pas comment le dire, et je sais même pas si ça se trouve pas du tout, si ça se trouve quand je suis ressorti de là, ils ont dû se dire il est gonflé. En fait, ce qui se passe dans les jours qui suivent, c'est plus des signes de réconfort que me font les gens, et ça j'ai honte. Les visages un peu défaits, désolés, les tapes sur le dos, etc. J'en peux plus de tout ça, et je me dis mais c'est quoi ma vie maintenant? Comment je continue? Comment j'oublie ça? En fait, c'est ça le mécanisme qu'on cherche à ce moment-là. C'est le mécanisme de l'oubli, qui est un mécanisme pervers parce que il faut oublier pour avancer. Et ça a été beaucoup le discours de mon père aussi. On passe à autre chose. On oublie ça. On va l'assumer. Il va y avoir un procès, etc. Et tout. Tu vas avoir une suspension de permis et tout. Et puis après, on passe à autre chose parce que sinon, tu n'avanceras pas. Je vais finalement jamais crever cet abcès, quoi. Ma mère, elle est tout de suite dans « Mais comment t'as fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte-moi, mais comment c'est possible ?» Je crois pas avoir versé de larmes à ce moment-là. On est juste dans la description des faits de l'accident. Mais voilà, mais oui, j'avais pas envie de provoquer de discussion, j'avais pas envie d'aller au fond des sentiments que ça avait pu provoquer pour moi. Et on n'est pas dans comment je vais. Et pendant longtemps, je ne serai pas dans comment je vais. En tout cas, c'est quelque chose que je vais garder pour moi. Comme on est dans une petite ville, que mon père est connu, l'accident est relaté dès le lendemain dans le journal. Évidemment, tout le monde est au courant. Chez nous, on n'en parle pas, sauf à parler de la procédure. On va prendre un avocat. Il va y avoir un procès, donc sauf à parler techniquement des suites de l'accident, on n'en parle pas. Ma mère me pousse un peu à aller à l'église, c'est-à-dire ma mère est très catholique, très pratiquante. Et voilà, donc elle me dit, tu devrais aller à la messe, tu devrais aller te confesser. Je vais même voir un prêtre, je ne me livre pas. D'ailleurs, il me l'a dit quand je lui ai rappelé, tu étais en pleine détresse, et tu voulais rien dire, et tu voulais pas partager. Et j'ai une grande hâte, c'est de partir ailleurs, ou à un endroit où les gens savent pas que j'ai eu un accident, voilà, de pouvoir se planquer. Et c'est ce qui va se passer un an plus tard quand je débarque à Paris, quoi. Et c'est une période où c'est la seule période de ma vie à peu près où j'oublie un peu vraiment cet accident. Je fais ce que disait mon père, c'est-à-dire je l'enfouis. Et je n'y pense plus. Le procès, c'était extrêmement difficile de se retrouver là dans une salle du tribunal avec toute la famille de l'homme que j'avais tué d'un côté. Je connaissais sa petite amie donc, qui était dans la voiture, très bien, mais lui non. Et j'ai senti qu'ils n'étaient pas contents de la peine qui m'a été infligée. J'ai eu 2 mois de prison avec sursis, j'ai eu 18 mois de retrait de permis et une amende. J'ai oublié le montant, mais c'était genre 2000 francs, enfin c'était ridicule l'amende. Avec ma première épouse, on a eu 3 enfants. Et les enfants, ça vous ramène à l'accident aussi, c'est une évidence, puisque tout d'un coup, vous voyez ces enfants et vous n'osez pas imaginer, et vous n'imaginez même pas la douleur que ce serait de les perdre. Et vous dites, moi, j'ai infligé la perte d'un enfant à des parents. Et quand on voit ces enfants, on se dit, il y a une espèce de vertige. Oh, ah oui, un jour, il faudra que je leur dise. Et puis, quand j'ai vu la Ligue de la violence contre la violence routière, et en voyant notamment cette maman qui avait perdu sa fille, Ghislaine, et c'est elle qui, en fin d'entretien, m'a dit « Bon, et vous, la famille ?» Et là, j'ai regardé le bout de mes chaussures, je dis « la famille, je sais pas. » C'est elle qui m'a déclenché cette démarche-là et ce cheminement-là, de retrouver la famille. Et donc je replonge dans tout ça. Et puis je cherche à contacter Marie, c'était la jeune fille qui était dans la voiture. On a reparlé de l'accident, et là c'est une espèce de... Je revis vraiment même. Et elle m'a donné des photos de l'homme que j'ai tué. Et elle m'a donné deux photos que j'ai toujours, que j'ai avec moi. Il avait 28 ans, je crois, il était un peu plus âgé que moi. Et de mettre un visage, ça m'a fait du bien. Et de la même façon, j'ai cherché sa tombe. Parce que ça aussi, je me suis dit, donc en 2010-2011, je me suis dit, mais t'es même jamais allé sur sa tombe, quoi. Et je pense que c'est la moindre des choses que je pouvais faire.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, accident de la route. Ce qui reste, un reportage de Valérie Borst, réalisé par Anne Kobilac. Merci à Joachim et à Bertrand. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore. Melville Letellier, sachez-le désormais, c'est notre stagiaire du moment. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et autres Twitter, pour nous raconter des histoires d'accidents ou d'autres témoignages, pour partager nos émissions ou bien les commenter. I hit my ears, rolled my eyes, but she would not stop. Her words hit harder than the blow. Cause I loved the way he jumped. I never thought that he would go. I miss his little daily show. I miss the little funny show. Yeah, yeah. I miss the little daily show. Saw me crying.